This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.
RMC. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jonathan Lacardi, plus Damien Perinel, jusqu'à minuit. Dans quelques instants, on va parler du Bénin. Tu sais, on sera avec Jimmy Adjoli Boko tout à l'heure, comme promis. Légende béninoise et lensoise. Et bien sûr, on vous attend au 32-16, supporters du Bénin, supporters du Sénégal, du Maroc. Vous devez être déçus ce soir. Le 32-16 est ouvert. Juste avant le Mercato, est-ce qu'on a notre jingle Mercato ? Le jingle le plus célèbre de l'histoire de l'After. C'est parti. Ah bah non, on l'a pas. Il faut dire que ce soir, notre réalisateur est Daniel Torres, je le dénonce.
C'est Toto.
Bon, ben, et donc, ouais, vu que c'est Toto, bon, on l'a pas, hein, le jingle.
Ouais. Et on l'entend gueuler, là, dans la régie, c'est Toto. Voilà. Un jour, on devrait aller le filmer en régie, tu vois, on devrait avoir un petit live de Toto, et je pense que ça ferait bien marrer tout le monde. Toto, t'es nul. Bon, en tout cas, on a le mercato.
Toto nous fait dire qu'il y a un problème de logiciel.
Oui,
celui du LOSC marche très bien, mais celui de Toto marche pas.
Voilà, en intro du mercato, je dirais juste que nous sommes le 5 juillet 2017, et qu'à ce jour, l'Olympique de Marseille n'a que deux défenseurs centrales, et à Valère Germain, en doublure, avec Clinton Ng au poste d'avant-centre. Nous vivons une époque formidable.
Attention, Toto a retrouvé le jingle mercato.
C'est combien ? 30 000.
Attends, je vais te
le
marcher.
RMC, le mercato show. Le mercato show.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Voilà. Merci, Toto. Tiens, Samir Nasri, il aurait pu revenir.
Totalement.
Eh ben non. Il a signé Anderlecht pour un an. Et qui c'est qu'il a fait venir? C'est Kompany. Vous savez que Kompany va jouer un rôle à la fois d'encadrant sur le terrain, en dehors, tout, entraîneur-joueur. Concept toujours un peu fumeux.
Ça va durer 3 mois. Voilà. Et puis après, il restera sur le banc.
Il a raison.
Nasri donc va signer Anderlecht un an.
Eh bah oui, mais parce que revenir en France, t'imagines, avec l'image qu'il a en France, c'est un choix qui est intelligent pour lui. Qu'est-ce qu'il va s'emmerder à revenir ici, sachant que, je dis pas qu'il est tout blanc, hein, dans l'affaire, mais il a une mauvaise image.
Ouais, rappelez-vous.
Ouais, non, mais. Voilà, c'est mieux pour lui, il va finir sa carrière au calme, mais il est pas cramé non plus, c'est encore un bon joueur.
Ça, c'est aussi bien pour le Havre que pour lui, qui n'est
mais
pas
mais qu'est-ce qu'il allait foutre au Havre?
Parce que même, on se met à la place.
C'est Le Guen, il s'est fait un petit délire.
On se met à la place de Paul Le Guen. Nasri, ok, il a joué 6 mois à West Ham, là. Ça s'est bien passé, mais il peut avoir une baisse de forme. Va mettre Nasri sur le banc, toi, au Havre.
Nasri, il a encore le niveau d'un club qui joue la Coupe d'Europe.
Bien sûr, et puis donc, très bon choix d'aller à Anderlecht.
Fantaisiste.
Alors, il y a un joueur qui avait une bonne cote, c'est l'attaquant de Clermont, Florian Haillé, qui va partir. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent. Alors, il devrait atterrir à Brescia, selon les infos RMC Sport du jour. Le club a tenté Balotelli.
Bah oui, parce que c'est son club, c'est le club de sa ville.
Et finalement, ils ont pris Haillé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Balotelli n'ira pas?
Ça veut dire que Balotelli demande beaucoup trop d'argent, c'est
Haillé, il aurait pu aller à Brest, il aurait pu aller à Angers.
En termes de salaire, c'est pas la même chose. Hein. Je pense que s'ils font Haillé, ils peuvent quand même faire Balotelli éventuellement. Bon.
Effectivement.
Je pense que Brescia n'a pas les moyens de faire Balotelli tout court.
Voilà.
Brescia qui remonte en Serie A. Hein.
Balotelli était très heureux quand ils sont montés. Ses stories Instagram pendant une journée, c'était ça.
L'Inter recrute un jeune de Sochaux. Alors ça arrange Sochaux qui est financièrement pas bien du tout. Et donc le jeune Dagoumé, Lucien Dagoumé, formé à Sochaux, rapportera près de 5 millions d'euros au club de Sochaux recruté par l'Inter. Avant de vous faire un peu de mercato international, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, Subotic qui quitte Saint-Etienne. Subotic a signé à l'Union Berlin, club qui monte, le deuxième club de Berlin qui monte en Bundesliga cette année. Alors, il a joué longtemps en Allemagne, hein, Subotic, rappelez-vous.
Bon, donc, aussi, il va encore avoir une bonne cote là-bas.
Il était cramé un peu, faut dire.
Ben Mais à Saint-Etienne, tout le monde était content.
Oui, oui, non, mais les supporters aussi étaient assez contents de son départ, quoi.
Je sais que dans le vestiaire, il était très, très apprécié. Un superbe état d'esprit.
Il avançait pas.
Après, sur le terrain, c'était compliqué de temps en temps.
Et puis, il y a du matos à Saint-Etienne en défense centrale.
Le problème, quand tu fais une défense centrale, Subotic, Perrin, le dos, ça peut être un peu compliqué au niveau de
Damien,
la vitesse.
Ils ont recruté le petit Moukoudi qui est hyper prometteur. Ils ont Saliba, ils ont Perrin, ils en avaient plus.
Non, et puis ils ont des jeunes très prometteurs avec leur victoire en Gambardella.
Le recrutement lyonnais du jour, Lyon, ça rigole pas. Tous les jours, il y en a un qui tombe. Aujourd'hui, c'est un jeune, un attaquant de 19 ans, un ancien déviant Tolon-Gaillard, Nicolas Fontaine, qui était à Leipzig. Visite médicale aujourd'hui. Lyon a payé quelques bonus, plus un pourcentage à la revente aussi. Donc, Nicolas Fontaine arrive à Lyon.
Ça bosse bien là-bas.
Le célèbre Silas Wamangituka.
Ouais.
On avait fait le délire à Marseille, tout ça. Bon, il n'y a toujours pas l'offre de l'OM. Hein. Mais le Paris FC a reçu des offres de Bruges, de Braga, de Lille et de Nantes pour ce jeune joueur 20 ou 21 ans, je sais plus, 19 ans.
Mais tu sais que les clubs que tu viens de citer là, actuellement, c'est des clubs qui ont un standing similaire à l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts.
Braga ?
Non, Braga c'est au-dessus, tu as raison.
Non, Braga c'est un tout petit budget. C'est
même, c'est en termes d'attrait, d'attrait, de cohérence du projet, très franchement... Quand t'es Silas, parce qu'on va l'appeler Silas.
Cela dit, Braga,
quand tu dois faire un choix de carrière, c'est peut-être mieux. Eh bah oui.
Ouais,
oui.
Bon, attends, quand tu sors du PFC, quand même, propose l'OM. Tu te dis pas que c'est un pas.
Ah bah lui, lui, qu'on soit bien clair. Non mais lui veut venir.
Réaliste.
Lui veut aller à Marseille. Mais le problème, c'est que même le prix que demandé par le PFC est trop cher pour l'Olympique de Marseille à l'heure actuelle. On en est là.
Sur Saint-Etienne, je signale que Palencia, l'ancien joueur de Bordeaux.
Super affaire.
Alors, c'est un joueur qui était prêté par le Barça. Il a jamais joué en équipe première au Barça. Il est du Barça B. Il a fait une saison à Bordeaux. Et là, il a signé à Saint-Etienne pour 4 ans.
2 millions c'est ça?
Le montant du transfert...
C'est 2, hein.
Écoute, là, je l'ai pas.
C'est 2 ou 2,5. Mais en tout cas, c'est un super coup. Et Saint-Etienne, cet été, encore un club qui bosse bien. Palencia, très bonne idée. Ils vont faire signer Bouanga de Nîmes. Très bien aussi.
Oui, Bonga, c'était pas un titulaire indiscutable à Nîmes, c'est pas.
Mais c'est un mercato d'opportunité. C'est un mercato d'opportunité où tu te renforces intelligemment. T'as déjà une ossature qui est solide et tu doubles tous tes postes avec des joueurs de qualité qui connaissent la Ligue 1 pour ce que tu joues. Tu vas jouer beaucoup de compétitions cette année. C'est très bien ce qu'ils font.
Au niveau mercato, qu'est-ce que j'ai encore? Chavarria de Reims qui signe à Majorque, promu en Liga en Espagne. Majorque, c'est qui c'est qui rêve de finir sa carrière à Majorque?
Non.
Samuel Eto'o.
Il a démarré, il a commencé là-bas, oui.
Il joue encore.
Mais il joue, oui, vraisemblablement. On l'a un peu perdu de vue, mais il était dans le golf, là.
Mais il n'y a que lui qui n'a pas compris que sa carrière était un peu terminée.
C'est fini, maintenant, monsieur.
Il le fait par amour. Je ne pense pas qu'il ait besoin de beaucoup d'argent. C'est mignon, oui.
Kaba, le Guinéen Kaba, quitte Dijon pour aller au Danemark, à Midtjylland. Donc supporter dijonnais, sachez-le. Et puis, supporter strasbourgeois, sachez que Saadi, qui n'aura jamais réussi à s'imposer à Strasbourg, a été prêté en Belgique au Cercle de Bruges. Saadi, il a été meilleur buteur du championnat belge il y a 3 ans, et depuis le pauvre,
club satellite de Monaco.
Un peu galéré pour remarquer les buts.
Et Bellegarde, alors t'es content ou pas?
Bon ouais, Bellegarde, Djikou, pour l'instant, il est pas mal.
C'est un bon recrutement. Ça sera pas titulaire, je pense, mais ça va bien te renforcer.
Très bien, c'est validé. Voilà pour le mercato français. Maintenant, j'ai quelques infos européennes à vous donner. Mino Raiola travaille.
Ah.
Il y a un peu de taf toujours Mino Raiola pendant le mercato.
Il était pas
vu l'écurie qu'il a. Il est agent de Pogba, comme vous le savez tous, et il dit aujourd'hui « Je travaille au départ de Pogba, tout le monde est au courant de sa volonté de partir au club, l'entraîneur, le président, tout le monde le sait. Donc, on va trouver une solution et il va s'en aller. »
Mais où? C'est ça la question.
Bah ça, on ne sait pas.
Pensez à la Juve à un moment.
Oui.
Bah, ça, c'est le Real.
Là, maintenant, c'est
le Real.
Embouteillé.
C'est le Real.
Pogba qui s'entraîne sur les installations à la Red Bull Arena à New York en ce moment.
Ah oui. Voilà. Tranquille, en vacances, il se dit tiens,
je pense qu'il est fier de fouler la même pelouse que tu as foulée un jour.
Ah oui, je pense. Et puis d'ailleurs, il a pris une photo sur Instagram avec ma photo à côté.
Ah bah ça m'étonne pas. Bah oui. Génial.
Exactement. Donc.
Il t'a confondu avec Thierry Henry, c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Alors sur Manchester United, Solskjaer est content du recrutement pour l'instant. Il dit moi ça me va. Ils ont recruté le jeune là.
Ils ont 10 millions là.
Wan-Bissaka,
arrière droit.
Daniel James aussi. Ils veulent Maguire. Leicester a quand même refusé une offre de 78 millions d'euros pour Maguire.
Alors là, moi, je veux bien Maguire. Ok, c'est un très bon défenseur. Il a fait une bonne Coupe du Monde,
Tu parlais de Mecklen.
Mais de là à mettre cette somme-là.
On parlait de l'équipe Gros Popotin.
Il est dedans.
Il est dedans.
Bien sûr.
Bon, bref. En tout cas, Solskjaer est amoureux de lui, donc il le veut.
C'est bien.
Reguilón, le jeune du Real que Zidane ne veut pas, a été prêté à Séville. Udegaard, l'ancien jeune prodige, a été lui prêté à la Real Sociedad par le Real. Voilà à peu près tout ce que j'ai au niveau mercato, messieurs, aujourd'hui.
Et attends, la grosse info du qui pullule dans la presse italienne. La Roma est prête à enlever une épine du pied de l'Olympique de Marseille et à reprendre Strootman contre Zonzi.
Ah bah, vous faites une affaire, les gars.
Ah bah là, si c'est vrai. On attend que ça soit confirmé par nos équipes mercato, mais si c'est vrai,
un poisson d'avril
magnifique.
De la presse de Rome, ça.
Comment?
Après, ils vont faire poisson d'avril les Marseillais.
Mais non. Mais j'ai vu ça. Les commentaires de la Roma à l'époque quand ils disaient.
Mais
j'ai vu ça et c'est repris par certains journalistes qui sont assez fiables. Di Marzio là, tu te dis mais c'est incroyable.
Il y a Totti n'est plus au club et c'est le bazar.
Mais si c'est vraiment le cas, mais incroyable. Il faut l'envoyer tout de suite.
Ne te réjouis pas trop vite.
Je
pense. Et puis Andersen, c'est fait. Hein, voilà, on l'a annoncé hier soir, mais ça s'est confirmé aujourd'hui à Lyon, évidemment.
Oh là là, Andersen de Neuer en charnière, t'es bien là quand même. Hein.
Et je sais pas. Enfin, nous hier, on trouvait ça un peu surprenant
qu'il
de mettre
fort,
une telle somme sur un joueur.
Il est super fort, Damien. Il est super fort, je t'assure. Il est rapide, il est complet, il est bon, hein, il est intelligent, il est toujours bien placé, il est super puissant, il est bien dur sur l'homme, mais il fait pas beaucoup de fautes. Non, c'est la charnière, c'est une vraie belle charnière d'avenir. Et en plus, cette charnière-là, tu la construis pas juste pour la saison à venir, ça peut durer 4-5 ans.
Vous avez vu le truc assez étonnant hier soir, dans une émission de télé en Italie. Il y a le président de la Sampdoria, il était censé être là, puis il arrive en retard. Et là, il dit bah pourquoi vous êtes en retard? Il fait bah attendez, là, il y a 5 minutes, je viens de vendre Andersen à Lyon là. Ah bon, voilà. Un mot du mondial féminin, 2-3 infos du jour. Déjà vous dire que la française Stéphanie Frappard arbitrera la finale, donc elle qui a arbitré en Ligue 1, hein, rappelez-vous, en fin de saison. Donc autant l'arbitrage masculin n'est pas au top au niveau français, autant l'arbitrage féminin donc est au top.
Faut s'en féliciter.
Exactement. Oh, même France-États-Unis, le coup de là.
De toute façon, un Français n'aurait pas pu arbitrer France-Croatie, de toute façon.
Non.
Par ailleurs.
C'est vrai.
Gianni Infantino s'enflamme. Il dit cette Coupe du Monde féminine est la plus belle de l'histoire. Voilà, ça faisait ça marrant. C'est le plus beau de l'histoire. C'est que ça faisait plaisir à tout le monde. Machin. Puis après, au jeu d'après, il dit c'est le plus beau. Et donc là, Infantino a dit ça. Et il dit puisque c'était le plus beau, on va élargir de 24 à 32 en 2023.
La connerie à ne pas faire. C'est la connerie à ne pas faire. Le football féminin est en pleine expansion. Il faut à tout prix, pour assurer la qualité de la compétition, limiter les différentiels et les écarts de niveau entre les équipes. Là, tu le fais à 24, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres, passez-moi l'expression. Mais tu vas avoir encore plus de purges et encore plus de matchs déséquilibrés. Donc, je comprends pas l'intérêt.
Trop de disparités.
C'est trop tôt.
C'est trop tôt.
Il y aurait trop d'équipes type Thaïlande.
Oui, c'est trop tôt.
Tôt le premier tour.
Il faut grandir par étapes. Il faut pas connaître de crise de croissance. Il faut faire les choses étape par étape.
Le Bayer est d'accord avec toi.
Eh ben parce que les grands esprits se rencontrent.
Alors le Graet, lui, s'enflamme carrément encore plus. Lui, il dit moi, je pense qu'il faut un mondial féminin tous les 2 ans.
Oui, et tous les ans, non, aussi, pourquoi pas. Non, mais alors, lui, mais le Graet, je me demande si.
Voilà, c'est une réussite. Tous les 4 ans, c'est trop peu. Donc,
Et donc, on le place où l'euro?
Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe dans ce mois de juillet entre les équipes mixtes de Ségolène Royal, le Graet qui veut le mondial tous les 2 ans. Qu'est-ce qu'on va nous sortir demain? Peut-être un ballon carré ou je sais pas.
En fait, le problème de cette Coupe du Monde féminine, c'est que.
Ou des buts sur les côtés
Non, mais c'est tellement. La bêtise de Ségolène Royal, quand même,
attends,
sur cette
Damien,
phrase.
Tu sais ce qui est dramatique, c'est que la Coupe du Monde féminine.
C'est pas bêtise, c'est inculture du foot, en fait.
Mais non, du sport en général.
Du sport en général, mais de la compétition.
Du rugby mixte.
Le problème,
non,
c'est que.
Non, mais Bastaro contre
contre l'or.
Ça existe au tennis, c'est double mixte.
Le problème, c'est que. On s'est intéressé à cette Coupe du Monde et qu'il y avait des choses intéressantes. Voilà, on avait tous été un peu pris par le jeu. Mais franchement, toutes ces déclarations qui vont à côté, ça décrédibilise la compétition. Ça fait passer cette Coupe du Monde pour une foire, en fait. Pour une foire à la bête sauvage. Il faut arrêter. Faut que les gens
se taisent. Dernière info, il y avait un petit match amical entre Béziers et Nîmes aujourd'hui, 0-0. Voilà. Pour les supporters des deux clubs. Dans quelques instants, c'est la CAN. Jimmy Adjovi Boko avec nous. Supporters béninois, on vous attend. Le Bénin a créé l'exploit d'éliminer le Maroc au tir au but cet après-midi. Le Sénégal, ce soir, s'est qualifié en battant l'Ouganda 1-0. Premier quart de finale entre le Bénin et le Sénégal. Voilà la première affiche d'écart à la CAN. On en reparle tout de suite avec vous au 32-16.
RMC. L'Afterfoot, Gilbert Bribois.
23h17, l'After est là jusqu'à minuit. Damien Perrinel et Jonathan Macardy. La CAN, bien sûr, et l'exploit du jour, c'est le Bénin. Le Bénin, c'est un tout petit pays là qui est coincé entre un autre tout petit pays, en l'occurrence le Togo, et puis un gros pays, le Nigeria. Et là, les petits Béninois, ils se sont qualifiés en éliminant le Maroc qui faisait partie des favoris à cette CAN au tir au but, donc 4 tirs au but à 1 pour les Béninois. On va accueillir quelques supporters du Bénin dans quelques instants au 32-16. Mais forcément, il fallait que l'After appelle l'homme qui incarne à la fois le Racing Club de Lens et le Bénin. C'est Jimmy Adjovi-Boko qui est avec nous. Jimmy, bonsoir.
Bonsoir Gilbert.
Bonsoir.
Bonsoir Jimmy. Oh,
bonsoir. Bonsoir à tous.
Quelle journée pour le foot béninois, Jimmy. Hein.
Oui, c'est une belle soirée. Très fier d'être béninois et de voir cette équipe battre le Maroc, même si la manière n'y était pas, mais le résultat était là.
Ouais, la manière là dans ces cas-là, on oublie, hein. Non.
Oui. Par contre, la manière, il faudra qu'on la mette un petit peu sur le match contre le Sénégal. Mais ce qui a été fait tactiquement est juste extraordinaire de la part de Dussuyer.
D'autant que, bon, très franchement, tu regardes le moment du but, c'est le premier tir béninois du match. Donc c'est
pour quand même totale réussite, mais c'était, je crois que c'était vraiment le plan de jeu de Michel Dussuyer. Il savait que on savait que l'équipe du Maroc nous était bien supérieure. Il a mis en place une équipe pour les attendre et jouer en contre et puis jouer notre va-tout sur des coups de pied arrêtés. C'est ce qui a été très bien fait, très très bien fait.
Après, pour connaître un peu même pas mal de joueurs de cette équipe béninoise. Bon, déjà, le plan de jeu, c'était un bon 5-4-1.
Des familles.
Et un vrai 5-4-1. Un vrai 5-4-1,
exactement. Donc, avec, en effet, l'opportunité de marquer sur coup de pied arrêté. Ça a été fait. Mais, malgré tout, quand on a un Mika Poté devant, notre fameux Michael Poté.
Oui.
Hein, il joue à Nice.
Voilà. Et je peux vous dire, il faut se le coltiner, Michael Poté. Parce que ça va haut à la tête. C'est dur. C'est compliqué de défendre sur un gars comme ça. Après, il y a quelques joueurs, les Manu Imoru, avec qui j'ai joué à Clermont. Ouais, il y a pas mal de joueurs qui ont du ventre mou de la Ligue 1 ou qui ont joué en Ligue 1
ou de Ligue 2 ou de Verdon 2, par exemple.
Exactement. Mais il y a vraiment un groupe de au Bénin et on arrive à être en quart de finale sans gagner un match. Bravo.
C'est vraiment ce qu'a réussi à créer Michel Dussuyer. Il a réussi à créer un groupe solidaire en s'appuyant sur la rigueur, le professionnalisme des gens comme Alagbé, comme Verdon, comme Adénon a fait
Damien,
une...
ouais.
Damien qui a fait une CAN, malheureusement il fait expulser bêtement, et puis là je pense peut-être qu'on reviendra sur l'arbitrage, parce que il faut, si on veut vraiment avoir une compétition de haut niveau, il faut qu'on travaille sur cet arbitrage, parce que c'est pas normal.
Alors faut rappeler qu'il n'y a pas le VAR à la CAN. Bon, pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle qu'il n'y ait pas le VAR, mais bon.
C'est pas une excuse. Il y a 10 ans, on n'avait pas le VAR.
T'as l'impression que l'arbitrage, c'est. Comment dire, j'ai régressé en Afrique ?
La quoi, pardon ?
Tu as l'impression que l'arbitrage a régressé en Afrique ?
Non, par rapport à quelques années, il a quand même progressé, mais sur ce match-là, il faut quand même admettre que c'était quand même très moyen, quoi. Mais bon, on va pas critiquer. Disons qu'on a des progrès à faire dans le domaine.
Il y a un gars qui est quand même étonnant dans cette équipe, Jimmy. C'est Seignon. C'est Seignon. Alors on l'a connu au PSG. On l'a un peu perdu de vue. Là, il est en Turquie. Et puis là, le type, il est toujours là.
Je peux vous dire que c'est Seignon pour l'avoir vu sur des matchs au Togo ou le match contre l'Algérie à domicile. C'est pas le Seignon qu'on a connu aujourd'hui. Il se bat, il défend, et bon, on connaît sa technique, on connaît son. Et aujourd'hui, c'est un vrai leader. C'est un vrai leader. Il a pris ses responsabilités, il a pris cette équipe à bras le corps. Il nous démontre aujourd'hui que c'est un vrai leader. Et Michel Dussuyer, encore une fois, je le répète, mais il a réussi à créer un esprit de solidarité. De rigueur, enfin, ça lui ressemble bien. Cette équipe lui ressemble à Michel.
Bon, malgré tout, le Bénin sera loin d'être favori contre le Sénégal en quart.
Alors, vous connaissez mon amour pour le Sénégal.
Oui.
En plus, quelques deux joueurs là actuellement, Idrissa et Papa Lundia.
Oui, parce que Idrissa Gueye s'est révélé chez Jimmy Adjovi-Boko à l'Académie d'Ambars.
Tout à fait. Et Papa Lundia aussi. le deuxième milieu de terrain qui joue à Galatasaray, qui vient de chez nous aussi. Et c'est vrai que, mais bon, je suis béninois et je resterai béninois, même si le Sénégal est mon pays de cœur.
Il y a eu une scène, il faut absolument, vous savez que les journalistes africains fonctionnent beaucoup avec WhatsApp, donc il y a des groupes de journalistes africains, ils s'échangent beaucoup d'infos, de vidéos par WhatsApp, et alors moi je suis dans un groupe où il y a plein de gens, et alors il y a une vidéo qui a circulé du ministre des Sports du Bénin, tu l'as vu Jimmy sans doute ?
En train de prier ?
Non, après le premier match, où le Bénin avait fait 2-2, contre le Ghana, c'était
oui.
Déjà une belle perf pour le Bénin.
Oui.
Et là, le ministre se pointe devant les joueurs et il dit écoutez, d'habitude, nous, le Bénin, quand on prend un but, on s'écroule. Là, vous avez fait un truc super, les gars. Maintenant, c'est clair, l'objectif. Entre temps, il dit prime de victoire. Pam. Et après, il dit maintenant, l'objectif, c'est gagner la CAN. Tu vois ? Et là, Dussouillet à côté, il devient blanc.
J'ai vu cette image, effectivement.
C'est exceptionnel. S'enflamme un peu, le ministre.
Mais je le connais très très bien. On est en train de travailler ensemble pour reconstruire le football, enfin le sport au Bénin. Mais au-delà de ça, il faut souligner le travail qui a été fait avec le ministre et le nouveau président, même s'il reste encore beaucoup de travail. Mais il faut savoir d'où venait le Bénin. Ces 20 dernières années, on a quand même eu pas mal de problèmes, et ces 5 dernières années, on n'avait pratiquement pas de championnat, quoi. Donc il faut vraiment souligner le travail qui a été fait par le ministère, la nouvelle équipe dirigeante, et là je souligne encore le travail de Michel Dussuyer, parce que il faut pas non plus penser que grâce à ces résultats tout se passe bien au niveau du football au Bénin. Il y a encore beaucoup de travail.
Ça fait un moment qu'il est en poste, Michel Dussuyer. Ça doit faire 4-5 ans maintenant, non?
Au Bénin, non. Il avait été viré pendant un moment. Et le ministre et la nouvelle équipe l'ont repris.
Ah d'accord, ok, voilà.
C'est pour ça.
Mmh, ok.
Il fait vraiment un travail excellent. Il est en train de mettre beaucoup de rigueur. Et c'est vrai que les joueurs, parce que bon, je parle de l'entraîneur, mais les joueurs sont là avec un très 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 grand professionnalisme. Et ça, c'est important. On le voit aussi chez les Sénégalais. C'est ce que peut apporter le football européen à nos joueurs.
Et Jimmy, tu disais, donc tu parlais du Sénégal avec beaucoup d'affection. Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu as pensé du début de CAN du Sénégal, là, qui s'en sort ce soir, qui est qualifié, mais dont on a l'impression que pour l'instant, en termes de jeu, on est en droit d'attendre quand même un petit peu mieux vu la qualité des joueurs?
Tout à fait. Mais encore une fois, quand on est dans une compétition qui est longue, on peut pas être au top pendant toute la compétition. Et là, je dois avouer, parce que je viens de voir le match contre l'Ouganda.
Ouais.
L'Ouganda qui est une excellente équipe. Mmh. Et heureusement qu'ils étaient au top. Parce que ce soit dans l'engagement, que ce soit techniquement, que ce soit tactiquement, l'Ouganda leur a posé énormément de problèmes. Et ils ont su répondre présent.
Et tu penses quoi, toi, de la gestion d'Aliou Cissé, qui est quand même relativement critiqué au pays?
Ouais, mais ça le problème avec le Sénégal, c'est qu'on critique beaucoup. Moi, Aliou Cissé, je trouve que le travail qu'il fait, et en plus, on fait confiance à un entraîneur local. Ça, moi, j'y tiens tout particulièrement aussi. C'est à souligner aussi le travail qui est fait, la rigueur qu'il met dans cette équipe. Mais maintenant, on va attendre des résultats. Le pays est en droit d'attendre des résultats au vu de la qualité des joueurs qu'il a sous son aile. Ils vont attendre aujourd'hui qu'il gagne la CAN, tout simplement.
Jimmy Adjovi-Boko est avec nous. Jimmy, juste une dernière chose quand même. Je sais qu'au Bénin, il y a des gens qui sont un peu émus, qui se disent ouais, quand même, on s'appelle les écureuils par rapport à des lions et des aigles. C'est pas très impressionnant. Faut changer le surnom ou tu tiens toi aux écureuils?
Moi, vous savez, on prouve là aujourd'hui que même si on s'appelle écureuil, on est capable de battre des lions. Donc pourquoi changer?
Et attends, c'est les écureuils, c'est Tiketa qui sont super malins, c'est des détectives et tout. Arrête un peu, c'est bien.
Je suis pas fan des proverbes africains parce que ça fait clicheton, mais là on m'en a envoyé un qui est bien. C'est le lion qui veut suivre l'écureuil jusqu'en haut de l'arbre doit se préparer à sa chute.
À tomber.
Magnifique, manie, exactement.
Merci Jimmy.
Attends, pour apporter une précision quand même, quand t'as présenté Jimmy, donc t'as dit légende du RC Lens,
oui.
Légende au Bénin, mais légende des Black Stars surtout, Jimmy.
C'est vrai, c'est vrai.
Oui, avec Patrick Boma.
J'ai l'honneur de faire partie de l'équipe des Black Stars.
Voilà, donc j'avais eu l'honneur de faire un match de bienfaisance avec contre toi à l'époque au Touquet. Et on avait passé vraiment un super moment tous ensemble.
C'est vrai, c'est vrai. C'est toujours d'excellents moments et toujours pour des bonnes causes.
Exactement.
Mais moi aussi, j'avais fait des matchs avec les Black Stars, dis donc.
C'est vrai.
T'étais avec Johnny Clegg, en fait.
J'étais, ouais, bon, mais bon, j'ai, tu vois, je jouais 5 minutes à la fin, quoi. Merci, Jimmy, en tout cas, c'était
merci,
sympa.
Jimmy, merci, Jimmy, encore pour le travail avec l'Académie.
Merci à tous.
Bonne soirée, à très bientôt. Jimmy Adjovi, beaucoup, donc, comme je le disais, les écureuils tournés de châtaigne pour les écureuils du Bénin. Lionel est là, salut Lionel.
Salut Gilbert, salut Jonathan, salut tout le monde.
Salut bon, Lionel.
T'es béninois
Lionel.
Oui, je suis franco-béninois, ma mère est béninoise.
Bon, tu t'y attendais franchement là, parce que bon, c'est quand même...
On s'y attend pas, mais bon, avec cette génération, c'est le plus bel exploit du Bénin hein, dans leur bah histoire footballistique. C'est les plus beaux moments, on s'y attendait pas, mais bon, voilà, ça s'est passé, face au Maroc. Avec beaucoup de courage. Ils ont essayé, j'aime bien cette équipe parce que elle a pas des qualités techniques énormes, il n'y a pas des joueurs exceptionnels.
C'est quand même un gars qui joue à Toulon. Qui a marqué le tir au but de la qualif. Toulon qui monte cette année en national.
En national. Mais il y a des belles intentions de jeu. Je ne sais pas si vous voyez, ça essaye de ressortir le ballon. C'était très dur, hein, bien sûr.
Excuse-moi, Lionel, je ne veux pas être dur, mais c'est souvent des intentions.
Bien sûr, c'est des intentions, mais on commence par des intentions, on finit avec la coupe à la fin. Hein, c'est comme ça.
Hein. Lionel, je comprends que tu as toutes les raisons du monde d'être le plus heureux du monde ce soir, parce que franchement, c'est un superbe exploit. C'était un des favoris de la compétition, le Maroc. Et ce qui se dégage en fait de cette équipe là, on va pas se mentir, hein, tactiquement c'est pas grand chose, techniquement il y a 2-3 bons joueurs mais c'est pas non plus grand chose, mais c'est que le collectif, notamment sur les côtés, tous les joueurs font les efforts les uns pour les autres.
C'est surtout de l'effort et de l'intention, comme disait Hubert, quand tu vois
beaucoup de joueurs qui arrivent certes à cette CAN comme des stars, je pense à Mané, je pense à Ziyech, mais qui ont été éreintés par une saison européenne qui a été haletante, bah tu dis que ces joueurs là qui sont peut-être qui arrivent peut-être avec peut-être un petit peu plus de fraîcheur, et ben voilà, c'est comme ça qu'ils font la différence.
Et voilà. Les écureuils ont porté leurs noisettes ce soir.
Le Bénin va quand même en quart de finale en ayant gagné 0 match. Hein.
Voilà. On va essayer de lever la coupe en ayant 0 victoire.
Ça sera un exploit.
Voilà, que les victoires au tir au but.
Ça ressemblerait un peu à la Grèce.
Mais pour revenir sur l'unité, qui fait cette équipe. Je sais qu'à l'époque, hein, il y avait donc un renouvellement. Enfin, même je sais pas si on peut dire vraiment un renouvellement, mais il y a une dizaine d'années de joueurs.
Oui, en 2010.
Exactement, en 2010, un renouvellement avec des joueurs qui étaient plutôt en Ligue 2, du joueur de Ligue 2, et qui sont vraiment au début de ce projet de cette équipe du Bénin.
Exactement.
Et c'était à chaque fois qu'ils partaient en sélection, mais c'était les plus heureux du monde. Ils étaient vraiment investis d'une mission. Et quand on voit les fruits récoltés aujourd'hui sur cette CAN, ça se voit en tout cas, ça se ressent.
T'as un joueur qui a un taulier au milieu de terrain, qui a des hauts-tifs, je comprends le petit nuage sur lequel il est, sachant qu'il a la chance ultime qu'il va être coaché par Jean-Marc Furlan à la reprise. Magnifique.
Et tiens, voilà, super. Et j'adore ce coach, j'aime bien ces...
Est-ce que tu es furlaniste?
Dis-moi,
est-ce que tu es furlaniste? C'est un mouvement que j'essaye de lancer.
Pardon?
Non, t'as pas,
j'ai pas compris.
Je te demande si tu es furlaniste. J'essaye de lancer le mouvement. Il y a le Bielsa,
oui,
le Guardiola.
Oui, je suis furlaniste. Je suis Bielsa.
C'est de lancer le furlisme.
J'aime ces entraîneurs ponceurs qui construisent le jeu de bas en haut. En plus, voilà, c'est beau. On va avoir tout ça. Et il y a Steve Mounier qui revient.
Ah oui, parce qu'il n'a pas joué aujourd'hui. Il était suspendu en bleu. Voilà, l'attaquant numéro 1.
On a notre pivot qui revient aussi.
Et ils ont joué avec le dernier remplaçant aussi.
Ouais, à mon avis,
il va rester.
Oui, je pense qu'il va rester dans les buts, lui.
Bon. Ben merci beaucoup.
Salut Lionel, merci à toi.
Ciao Lionel.
Ben merci beaucoup et bon courage.
Merci,
bonne soirée, à bientôt pour reparler du Bénin. Ben on se rappelle pour le quart de finale si tu veux. Khalil était avec nous hier, là, un studio, là. Il nous disait, ouais, le Maroc, nous, on est quand même supérieur à l'Algérie, on est le Maroc, quoi. Tu vois, il était un peu confiant. Et ben là, il est de nouveau là avec nous. Salut, ça va?
Ça va, Gilbert, tranquille, et toi, tu vas bien?
Bah ouais, mais...
tranquille, non, parce que...
On voulait prendre des nouvelles, parce qu'on est inquiet pour toi, un peu, quand même.
Ah bah, franchement, t'as bien fait de t'inquiéter pour moi, parce que vraiment, je suis pas bien. Hein. Vraiment, je suis pas bien. J'ai besoin du cœur. J'ai besoin du gros cœur pour me remettre. C'est très compliqué.
Qu'est-ce qui t'a énervé, là?
Mais en fait, ce qui m'a énervé, c'est que... c'est que c'était moche ce soir. C'est que le Maroc, enfin, qu'ils ont. Oui. Hier, j'étais dithyrambique par rapport à cette équipe-là.
On l'était tous, hein. On le mettait dans les trois favoris.
Par rapport à Hervé Renard et tout. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui m'a énervé, c'est que l'état d'esprit, ils ont fait preuve pendant cette compétition ou pendant la Coupe du Monde. Il n'était pas présent. C'est-à-dire que ils sont tombés dans l'individualisme. Chacun voulait faire son petit cinéma de son côté. Ziyech, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance.
Non, mais Ziyech, excuse-moi. Ziyech, il y a quand même un truc. Il y a un problème mental. C'est-à-dire que.
Non, attends.
Mais Ziyech,
même à l'Ajax, il est comme ça quand même. Hein.
Ziyech, il rate le péno du 2-1 dans les dernières secondes. Derrière, il fait une prolongation. Mais une catastrophe!
Catastrophique!
Il a une occasion énorme! Incapable de se remettre d'aplomb, quoi!
Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement dire que Ziyech a été nul durant l'intégralité de cette CAN?
Non!
Mais moi, je dirais encore plus loin!
Non, j'ai vu les matchs de poule. Ziyech, je vais te dire.
Dans lequel tu l'as très bon?
Non. Attends, moi, le match que j'ai vu, c'était Maroc-Côte d'Ivoire. Non, franchement.
Très bon dans Maroc-Côte d'Ivoire.
Ah non. Il tirait les coups de pied arrêtés. Je peux te dire que chaque coup de pied arrêté qu'il tirait, c'était dangereux. Non, il a pas fait que les mauvais matchs.
Contre la Côte d'Ivoire, je l'ai trouvé plus que moyen.
Contre la Côte d'Ivoire, il était pas mauvais. Mais c'est pas parce que chez nous, enfin, au Maroc, Ziyech, c'est la star. C'est Mohamed Salah en Égypte et Sadio Mané, au Sénégal. C'est-à-dire que c'est le joueur qui doit mener l'équipe vers le haut.
La vraie star, ça devrait être Alamadi.
Il l'a pas fait.
C'est ça, c'est lui le taulier. C'est lui qui devrait être la vraie star. C'est Alamadi.
Le leader technique, comme on dit.
Plusieurs fois meilleur joueur du championnat hollandais, c'est lui la star.
Ouais, mais pas qu'une fois, il a été deux fois meilleur joueur du championnat hollandais.
Super joueur.
Ouais, même quand il était à Twente avant l'Ajax, il était très très bon. Même quand il était à RNB aussi, il était bon. Franchement, c'est un très bon joueur. Mais il a fait deux compétitions majeures avec le Maroc, c'est-à-dire la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Et à chaque fois, il passe à côté de ses matchs. Je ne sais pas pourquoi.
Ouais, mais Khalil, on peut disserter tant qu'on veut sur l'état d'esprit qu'avait le Maroc aujourd'hui. Tu joues contre une équipe qui joue à 5 derrière, 4 milieux. Ils ont eu la possession du ballon pendant 80% dans le camp adverse. En première mi-temps, les Béninois, je ne sais même pas s'ils ont réussi à faire 3 passes dans le camp marocain. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment... Mais quand t'as tes occasions et des occasions comme ça, comme le Sénégal ce soir, mais faut que tu sois réaliste. Et l'histoire, c'est plus la même derrière.
Ouais, mais je suis pas complètement d'accord avec toi parce que des occasions, on n'en a pas tant eu que ça au final.
Mais tu sais pourquoi?
T'as ton penalty à la
94e. Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est un problème qu'on avait identifié avant que la compétition ne commence. Même s'il a marqué ses buts, En-Nesyri, il a besoin.
Il a besoin
de 10 occasions pour marquer, quoi.
Exactement, je dirais pas qu'il est nul parce qu'il a encore que 20 ans, il a encore une marge de progression. Donc voilà, il est pas nul.
Il te manque un vrai bon avant-centre.
C'est pas un attaquant pour l'équipe nationale.
Pas encore. Il te manque un vrai bon avant-centre.
Pas encore, exactement. De toute façon, on pouvait pas faire mieux que ça. Au Maroc, on n'a pas de numéro 9.
Il y en a pas.
Le seul joueur qui était Amdallah, il a tiré la gueule, il s'est pris pour Zlatan. Du coup, il est parti.
Mais ça, c'est dommage, parce que lui, ça aurait été différent.
C'est dommage.
C'est un super avant-centre, Amdallah.
Parce qu'il a fait. Il a fait une saison énorme en Arabie Saoudite. Il a marqué limite. Il a joué moins de matchs que Bafegomis. Il a marqué presque deux fois plus de buts.
C'est avec toi qu'on en avait parlé, non?
Exactement.
C'est avec toi qu'on en avait parlé. Dallas, c'est un super joueur. C'est dommage.
C'est un super joueur, mais si t'es un joueur qui t'inscrit pas dans un collectif, tu restes pas dans le collectif. C'est mieux comme ça.
Je pense qu'Hervé Renard a peut-être commis une petite erreur de gestion sur ce coup-là. Je pense qu'il aurait pu essayer de calmer la chose avec Faisal Fajr. Et là, c'est dommage.
Oui, mais Hervé Renard voulait défendre son groupe parce que c'est une équipe qu'il a construite. Ça fait 40 mois qu'il tourne avec la même équipe. 40 mois qu'il tourne avec la même équipe. Et du coup, quand il y a un problème pareil, il peut pas le gérer de façon à aller vers Amdallah, par exemple. Il était obligé de défendre le Fadre. Il était obligé de défendre son groupe. Du coup.
Et le problème, si tu acceptes ça, après, c'est terminé. T'as plus la main sur ton groupe.
C'est vrai aussi, Damien. Vous avez raison, les gars. Ouais.
En 2017, il a eu le même problème avec Ziyech.
Avec Ziyech,
on se rappelle bien, il avait pas convoqué à la Coupe d'Afrique. Et ça avait fait une grosse polémique au Maroc. Parce qu'on se demandait comment un tel joueur qui faisait des prestations magnifiques aux Pays-Bas ne pouvait pas s'inscrire dans un collectif comme Maroc. Et puis après.
Dis-moi, Khalil, là, c'est la fin d'Hervé Renard, là, a priori. Hein.
Oui. Ah non, mais de toute façon, honnêtement, c'était sûr que qui gagnait, enfin qui fasse une bonne compétition ou pas, qui gagne la CAN ou pas, Hervé Renard, c'était fini après cette compétition. C'était fini. Il allait, enfin, parce que là, la plupart des joueurs de l'équipe nationale, c'est fini. Les Benatia, Amrabat, Belonda.
Ah ouais, tu penses qu'il y a une génération qui va s'arrêter là?
Même Alamadi.
C'est là maintenant après cette Coupe d'Afrique, c'était clair. Même pour la fédération. Ils voulaient construire une nouvelle équipe avec de jeunes joueurs, avec le Idrissi, le joueur de l'AZ Alkmaar, qui a fait aussi une entrée pas très bonne, alors que normalement c'est un bon joueur, il est assez technique et même il pourrait aller à l'AC Milan cet été. Il y a aussi Aït Bennacer. Il y a de bons. Il y a Romain Saïs aussi qui maintenant va devenir le patron de la défense après le départ de Benatia.
Il faudra mettre Hakimi de son bon côté, hein. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, Fadil. Et puis il faut trouver un bon gardien aussi.
J'ai dit, il faudrait mettre, un bon gardien, mais il faudrait mettre Hakimi de son, du bon côté.
Ah oui,
parce que là, sur toutes les attaques, où il était lancé dans son couloir,
sans pied droit pour centrer.
Exactement, et tu perds du temps et il a gâché plein de situations.
Ouais, alors que c'est un très bon latéral.
Et oui.
Un très bon latéral. Mais le problème, c'est que si tu mets Hakimi à droite, t'es obligé de mettre Mazraoui qui joue à l'Ajax sur le banc. Et en même temps, en arrière-gauche, on a personne. On a vraiment personne.
Bah là, t'as joué avec Nabil Dirar, là, à droite.
Oui, avec Nabil Dirar. Oui, sauf que Hervé Renard, c'est ça. Hervé Renard, c'est un peu comme le style d'idée des champs. C'est-à-dire qu'on privilégiait le groupe, on privilégiait les cadres et les tauliers. Dirar, il a fait plus de 70 matchs en sélection. Donc, il a sa place.
Le poste de latéral, c'est vraiment le poste où tu peux pas faire jouer un faux pied. Tous les autres postes sur le terrain, tu peux faire jouer un faux pied.
Roland Courbis, qui a inventé ça. Marseille, Manchester.
Lui, il te mettait les latéraux ailiers pour bloquer les mecs en haut là-bas.
Voilà, c'était.
Il avait interverti les latéraux parce que Manchester jouait avec des faux pieds.
Merci Ranil.
Salut Ranil.
Honnêtement, juste une dernière chose. Vraiment, j'ai juste envie de remercier un seul joueur parce qu'il s'est fait tailler au Maroc. Avant, genre, même on faisait des émissions de 2 heures pour le tailler.
Boussoufa.
On disait qu'il méritait, qu'il n'avait pas sa place. C'est pas Boussoufa. À 34 ans, il n'a pas de club. Il a fait 2 septembre jusqu'à février sans club. Il a pris un petit contrat avec un petit club saoudien.
Il a été là aujourd'hui.
Voilà, et franchement, il a fait vraiment une compétition magnifique. Vraiment, merci Boussoufa. Et puis, les gars, lancez une petite cagnotte Litchi pour lui faire un petit statut au Maroc parce qu'il mérite. Vraiment, il mérite.
Et c'est un bon gars en plus.
Salut, ciao, Ralil, ciao. Bonne soirée.
Merci,
à bientôt.
C'était un plaisir, les gars. Ciao, bonne
soirée. Ciao. Il était aussi avec nous hier. Omar, notre Sénégalais. Il était là hier en studio avec nous. Bah, forcément, moi, je voulais qu'on le rappelle, Omar, ce
plaisir,
soir.
Là.
Salut, Omar.
Salut Gilbert.
Salut Omar.
Bon, 1-0 face à l'Ouganda, c'était quand même pas la balade absolue. Hein. Vous avez tremblé. Hein.
Oui, très, très, très poussif. On a gagné, mais on n'est pas content. Le jeu a été très laborieux. On n'a eu que 2 cadrés au cours du match, dont le pénalty raté de Sadio Mané et le but. On a souffert jusqu'au bout. Malgré cela, on a gagné, mais on n'est pas très satisfait.
Bon, l'essentiel est là, quoi, on va dire.
Omar, depuis le début de la compétition, alors il y a eu ce match perdu face à l'Algérie, où on pouvait trouver beaucoup d'excuses au Sénégal, notamment avec l'absence de Gueye et de Kouyaté, mais on n'a pas vu une seule mi-temps cohérente tactiquement et techniquement de la part du Sénégal. Et c'est quand même un peu alarmant vu de la qualité des joueurs que tu as.
Ils ont fait 25 premières bonnes minutes, ils ont marqué vite là.
C'est pas une mi-temps.
Oui, c'est même pas une mi-temps.
Oui, Omar, c'est ce que je disais hier avec le jeu d'Alioufi, on ne comprend plus rien. On a tellement de bons joueurs, mais on ne parvient pas à faire 2 ou 3 passes successives. On balance comme ça en espérant que Mbaïnian ou Sadio Mané puisse toucher le ballon.
C'est pas ça, Omar, si je peux me permettre.
Ismaël Assar ont été fantomatiques.
Omar, si je peux me permettre, j'ai l'impression que le plan de jeu d'Aliou Cissé, il est quand même ultra lisible pour les entraîneurs adverses et ultra limité. C'est aller très très vite sur les côtés avec des joueurs qui prennent vraiment la profondeur. Et à l'image de ce que Belmadi avait mis en place avec l'Algérie, à partir du moment où tu arrives à mettre un peu de densité sur tes côtés et à les empêcher, justement à bloquer cette profondeur-là, tu te retrouves avec Henri Sévé qui essaye de se démerder au poste de numéro 10, mais qui est, voilà, c'est Henri Sévé, quoi. C'est pas Zinedine Zidane. Et au final, tu te retrouves avec une équipe
Henri
qui est assez stéréotypée,
qu'il a plusieurs arcs à son flèche.
Oui.
Et ça,
mais tu sais qu'à cause de l'entente, je l'ai dit ça un jour, là. Adrien Aiguin, ce Vistar, il avait.
Oui, Omar, vas-y.
Oui, tactiquement, Aliou Cissé ne parvient pas à se réajuster sur le site très compliqué. Vous l'avez dit contre l'Algérie, Belmadi avait deviné le plan tactique d'Aliou Cissé, mais malgré cela, il ne pouvait pas réagir. Aujourd'hui, c'était la même chose.
Alors qu'au bout contre l'Algérie, tu te rappelles, Omar, au bout de 10 minutes, tu voyais très clairement ce que l'Algérie avait compris, qu'ils allaient te bloquer les côtés et que Sarr et Mané auraient aucune profondeur. Donc, je pense que tu as assez de joueurs et assez de qualité technique pour réajuster en cours de match. Change de système, je sais pas, passe à 2 pointes, mais t'as vraiment d'autres choses à faire, quoi. C'est la qualité de joueur qu'il a sous la main quand même.
Mais on gagne, mais les supporters au pays, nous ne sommes pas contents parce que c'est très, très laborieux et on souffre jusqu'à la fin. Alors qu'avec l'Ouganda, on devait pouvoir gagner 2 ou 3-0.
Eh oui.
Ouais, enfin, méfie-toi de l'Ouganda, c'était une bonne équipe, Omar.
De grâce. Sadio Mané, qui est notre meilleur joueur. Mais arrête de tirer nos pénalties, mon cher.
Ah, ça, c'est...
Arrête de tirer nos pénalties.
Et le Didiouf, il l'aura mis, lui. Hein.
Non, il avait raté. T'es d'où au Sénégal, t'es d'où, Omar?
Pardon?
T'es de quelle ville au Sénégal?
Fatick.
Ok. Faut pas hausser.
Fatick, c'est au sud de Dakar.
Ok.
Sache-le. Non, parce que Omar nous l'a dit hier, hein, donc je ne sais pas que je suis un spécialiste de la géographie sénégalaise, mais. Tiens, petit, tu parlais des faux pieds là.
Ouais.
Luis Fernandez me signale à juste titre. Et Amoros, ils ne connaissent pas? Eh ouais, les gars! Eh oh, c'est quoi ça? Bon, celui d'Amoros, il était très fort des deux pieds.
Mais Amoros, c'était. C'est ça, on parle du meilleur latéral de l'histoire du football français, de toute manière. Il jouait partout, quoi.
C'est pas faux. Quelques messages avant de quitter Omar. Jean de Dieu qui est béninois qui me dit « Moi je suis aux anges, je suis fier d'être béninois ». Omar, ils te font peur les béninois d'ailleurs en quart de finale?
Bon, ils ont été chanceux aujourd'hui, mais bon, j'aurais préféré le Bénin qu'au Maroc et je sais qu'on va gagner, Inch'Allah.
Bon, eh ben écoute Omar, merci à toi, bonne soirée.
Ciao, merci.
À très vite.
Salut. Et puis oui, un autre Omar me rappelle que il y a la VAR à partir des quarts de finale, hein, à la CAN, donc là ça va peut-être un peu changer les choses sur l'arbitrage. Demain, attention, il y a un match à ne pas rater, c'est Nigeria-Cameroun, 18h. Alors là, attention, ça va être chaud. Les deux ennemis voisins, en plus avec sur fond de conflit un peu frontalier entre les deux pays.
Et beaucoup de équipes un peu décevantes aussi. Donc
voilà, le Nigeria capable de tout et rien, avec guerre notre or. Le Cameroun, moi je sais, franchement, c'est impronosticable. Ah. Nigeria-Cameroun.
Cameroun, voilà. Pareil, hein, bon joueur, mais et très décevant au début.
On fait le tableau, ouais. Okay. D'autant plus les gagnants risquent de rencontrer l'Égypte.
Exactement, et à 21h demain soir, Égypte-Afrique du Sud. Alors il faut absolument regarder ce match-là, peut-être pas pour le jeu, mais regardez, enfin, essayez, mettez la télé à fond, parce que quand l'Égypte joue, c'est un truc de dingue, j'en parlais hier soir. Donc demain face à l'Afrique du Sud de Motiba.
T'as fait des matchs de club en Égypte?
Non, jamais.
Il paraît que c'est un truc à vivre. Hein. Que les clubs de foot là-bas, c'est des institutions.
Al-Ahly Zamalek, par exemple,
c'est ça,
du Caire.
Ça mais c'est des institutions qui sont. C'est des vraies institutions dans le pays, quoi.
Il y a eu le championnat et s'est joué à huis clos pendant longtemps, puisqu'il y a eu le drame de Port Saïd où il y a eu plus de 70 morts lors d'un match de championnat il y a quelques années.
Bien sûr. Et puis, il faut rappeler que les clubs de football, c'est les ultras des clubs de football qui sont à la base du printemps arabe.
En Égypte.
C'est eux qui ont déclenché le mouvement.
J'aimerais bien d'ailleurs qu'il faudrait qu'on reçoive un spécialiste de la géopolitique égyptienne qui connaisse le foot, là, qui nous raconte ça. Il y a plein d'histoires incroyables.
Mais on en a vu, hein.
On va le
retrouver. Je me rappelle plus son prénom. Il avait écrit un livre, là. Une histoire populaire. Michael Correa, qui nous avait raconté, qui nous avait donné pas mal de
détails. Tu sais quoi, on va faire revenir Michael. T'as raison. Dans quelques instants, la Copa América. Bah ouais, parce qu'on n'a pas eu le temps de raconter les histoires. Bolsonaro qui brouille le VAR, qui va faire son malin là, à la mi-temps. Le Pérou, étonnant, qui a pris une danse contre le Brésil en poule, mais qui se retrouve en finale contre ces mêmes Brésiliens. Plus Thiago Silva qui est de retour au firmament. Tout le monde l'adore au Brésil, alors qu'il y a 6 mois, tout le monde le détestait. Bref, il se passe plein d'histoires à la Copa América. On va vous raconter ça dans quelques instants dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Brébois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit avec Damien Périnel, avec Jonathan McCarthy. Et donc, je voulais qu'on parle un peu de la Copa América. Juste pour finir sur la CAN avant. Bon, oui, tout le monde effectivement s'étonne de jour en jour que les stades soient vides. Alors, il y a une raison que le comité d'organisation a expliqué, c'est que il y a des craintes d'attentats. Il y en a eu un dans le Sinaï juste avant la CAN. Il y a des craintes d'attentats autour de la compétition, donc il y a c'est une sécurité très très renforcée. Et il y a une solution qui est très simple, qui arrive souvent en Afrique, c'est de dire bon, une fois que le match a démarré, que les gens qui ont payé leur place sont installés, on ouvre les portes et puis tout le monde entre. Sauf que là, on ne veut pas faire ça en Égypte, parce que si on fait ça, on n'a pas le contrôle sur qui rentre dans le stade. Donc, refus total de le faire, d'où les stades vides. Parce que sinon, les stades seraient vides sur à peu près toutes les CAN. Faut pas se mentir. Hein.
C'est pour ça que même les gens vont être dommages.
Les gens n'ont pas l'argent pour se déplacer ou pour acheter des billets qui souvent sont chers. Et là, du coup, aujourd'hui, le comité d'organisation fait savoir qu'il va bosser avec des associations pour remplir les stades, notamment pour faire venir des enfants, des gens qui sont dispo pour remplir les stades, mais de façon contrôlée. Voilà.
Très bien.
Bon.
Un stade qui vit, c'est quand même plus sympa.
Bah oui, bah malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a que pour les matchs de l'Égypte où c'est blindé. La Copa América, là non plus, d'ailleurs, c'est pas blindé.
Et encore pire.
Encore pire. Bon, la finale va y avoir du monde quand même.
Oui, je pense. Mais là.
C'est où d'ailleurs la finale? Je sais même pas.
Bah, c'est au Maracanã.
Au Maracanã, oui. Ouais, bah oui.
Au-dessus, au Brésil, ils sont capables de faire ça.
Non, c'est au Maracana.
Ou ailleurs.
Maracana.
D'accord.
Donc, les Copa Américains.
Raconte l'histoire du VAR, parce que alors, les Argentins, il faut le refaire dans l'ordre. Brésil-Argentine, Messi, pas coutumier du fait.
Foudrage.
Foudrage après le match. De toute façon, les Brésiliens décident de tout, on ne changera rien ici. En gros, on s'est fait fourrer, quoi, je le schématise, par l'arbitrage. Et là, on apprend un peu plus tard que l'Argentine fait un dossier de 15 pages pour se défendre et que le VAR a été brouillé.
Les équipes présidentielles de Bolsonaro.
Raconte ça, là.
Alors en fait, ce que les Argentins accusent. Alors il y a une action dans le match. Le Brésil mène 1-0. Il y a une attaque argentine, faute dans la surface de réparation assez visible d'un défenseur brésilien sur un attaquant argentin. L'arbitre ne dit rien. Les Argentins réclament le VAR et puis sur le contre, et le Brésil met le 2-0. Donc au final, scandale. Les joueurs argentins hyper remontés après le match et les Argentins accuse les équipes de Bolsonaro de s'être branchées sur la même fréquence radio qui lie l'arbitre central à son camion du VAR pour brouiller les séquences, pour brouiller les fréquences.
À dessein, quoi.
À dessein, de manière à ce que l'arbitre central ne soit pas en contact avec le camion du VAR. Donc, au final, ils ont monté un dossier de 15 pages. On sait très bien comment ça va se terminer. Il y aura un non-lieu. Et puis voilà, passera à autre chose. Mais cette chose, ce petit incident donne une raison, voilà, de se consoler un petit peu, de se voiler un petit peu la face sur le niveau réel de l'Albi Céleste depuis des années maintenant.
Après, quand on voit quand même le kung-fu de Dani Alves sur Agüero dans la surface de réparation, on peut dire ouais, que la VAR ne fonctionnait pas forcément.
Il y avait une très grosse faute. Ah ouais. Dire comme ça.
Alors il y a Bolsonaro à la mi-temps, il est descendu au bord de la pelouse, bain de foule.
Bolsonaro, il fait ça à tous les événements sportifs. Les cartes de l'UFC, tu sais que le deuxième sport au Brésil, c'est le MMA.
D'abord l'UFC, Bolsonaro.
Tous les combattants de MMA sont comme les footballeurs brésiliens, sont fans de Bolsonaro.
J'imagine
quoi.
Pas Emmanuel Macron aller un combat de MMA une fois que ce sera légalisé, tu vois.
Francis Ganou. Si Francis Ganou combat pour une ceinture à Bercy, j'espère qu'il ira quand même. Enfin bon, non, mais Bolsonaro, voilà.
Il ira pas.
Bah, on sait très bien que non. Mais Bolsonaro, on n'a pas le temps, mais il faudrait expliquer que tous les joueurs de football, quasiment, le
sont pro Bolsonaro.
Voilà. Sauf un.
Sauf Juninho.
Exactement.
Non, il y en a d'autres. Il y a Enrique aussi, l'ancien Bordelais.
C'est vrai.
Il y en a quelques-uns qui se sont positionnés quand même.
Contre Bolsonaro.
Bolsonaro. Maxwell, je crois. Si j'ai pas de bêtises.
T'es sûr de ça?
Je sais.
À vérifier.
Parlons maintenant du Pérou.
Oui. Alors le Pérou, ils sont rentrés dans la compétition, ils ont pris une danse face au Brésil. Pourquoi? Ça peut être analysé simplement, c'est que le Pérou, vous les avez tous découverts quand ils sont tombés dans le groupe de la France à la Coupe du Monde.
Mais ils étaient pas mal d'ailleurs.
Qui étaient pas mal, mais c'est une équipe qui n'est pas faite pour faire le jeu. C'est une équipe qui est faite pour contrer, qui est dure à manœuvrer, qui est faite pour durcir un petit peu le jeu. Qui a des très bons joueurs de ballon devant, mais qui est très forte en phase de contre. Et contre le Brésil, ils ont, à mon sens, ils ont joué un petit peu contre nature. Ils ont essayé de jouer un peu plus haut, d'avoir la possession du ballon et ça correspond pas forcément à leur qualité. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont un excellent entraîneur en la personne de Ricardo Gareca qui connaît parfaitement ses troupes. Ça fait un petit moment qu'il a cette génération de joueurs là sous la main. Il a commencé à réajuster le tir. Ils sont sortis de la phase de poule ric-rac en finissant troisième. Et puis il y a ce hold-up contre l'Uruguay où ils sont revenus à leurs fondamentaux, c'est-à-dire on subit, on arrive à être hyper solide, à un peu pourrir le match et puis on se qualifie au tir au but. Et puis voilà, là contre le Chili, t'as l'impression que t'avais des joueurs qui d'une part étaient transcendés parce que c'est leur ennemi héréditaire, hein, le Chili. C'est le derby de la Cordillère des Andes. Les deux se détestent. Ils s'étaient déjà affrontés lors de la demi-finale de la Copa América en 2015, remportée par le Chili, où ça avait très très mal terminé. Il y avait eu carton rouge, des échauffourées dans les couloirs. Et là, franchement, t'as un Chili qui est resté fidèle à ses valeurs, c'est-à-dire en essayant de jouer pas trop, qui a été létal en contre, hyper rapide avec tous ces petits attaquants de poche, Flores, Cueva, qui sont toujours aussi bons, un Guerrero des grands soirs. Et puis
toujours là celui-là. Hein.
Ouais. Et l'élément le plus important qui va être
parti formé au Bayern, il est parti du Pérou très
exactement.
Tôt.
L'élément important qui va être à regarder face au Brésil, c'est que t'as deux joueurs qui étaient un petit peu en dessous depuis le début de la compétition, notamment contre le Brésil, qui sont Yoshimar Yotun et Renato Tapia, les deux milieux de terrain.
Marqué Yotun.
Voilà. Et qui a marqué, et les deux se sont réveillés contre le Chili, on les a vraiment retrouvés à leur vrai niveau, et quand ces deux-là vont bien, le Chili, c'est une équipe qui est chiante à jouer.
On avait vu Galese qui est en difficulté,
Le Pérou.
Un Galese qui est en difficulté contre le Brésil, quand même.
Il s'est rattrapé, c'est un match où il est passé à travers,
mais après,
parce que c'est un bon
gardien. L'Uruguay, il avait été très performant, en effet. Après, cette équipe du Pérou, on va pas se mentir, hein,
pas le Pérou?
J'enchaîne.
Ouais. Oh, t'en as fait des pires depuis que t'es là.
Hein. Non, attendez. Le Brésil,
c'est pas arrivé quand même.
C'est
pas quand on les voit jouer.
C'est pas un Brésil exceptionnel. Non
c'est
plus.
Un Brésil
mais
qui fait
un Brésil
le minimum.
Qui est très cohérent. En revanche, c'est un Brésil où quand
donc
on
toi,
voit.
Toi, tu dis le Brésil va gagner, quoi. Si
le Brésil a le même état d'esprit qu'ils ont eu contre l'Argentine, à savoir les attaquants qui se replient rapidement
Dani Alves de Gala, c'est surtout Dani Alves qui est énorme.
D'ailleurs, contre l'Argentine, j'ai pas compris pourquoi, au bout de 10 minutes, on avait compris que Dani Alves était en feu, mais il n'y a pas eu d'adaptation de la part de l'Argentine pour bloquer les montées. Dire ça, au bout d'un moment.
Parce qu'ils l'ont vu au PSG cette année, ils se sont dit, ouais, ça va pas durer.
Ouais, mais là, il a plus de contrat, donc il court beaucoup plus vite d'un coup.
Il cherche un club.
Apparemment, il est en négociation pour aller peut-être même à Boca.
Quand on voit le niveau de Thiago Silva et de Marquinhos et de la défense brésilienne en général. Et mais en plus de ça, de cette équipe.
Bien, ils sont bien protégés aussi, hein.
Bien
quand
sûr.
T'as Casemiro devant avec le petit Arthur qui garde bien les ballons, ça soulage ta défense centrale.
Mais Thiago Silva, les relances à chaque fois.
Il te casse
des lignes, il anticipe.
Il est énorme. Et c'est la première compétition internationale pendant laquelle il est performant. Parce qu'avec le Brésil, auparavant, c'était vraiment le joueur ultra décrié. Après, le Brésil, c'est cohérent, ça joue correctement par phase. Mais attention, ils ont quand même une pression de malade. L'Argentine, la victoire, c'est important parce que c'était à Belo Horizonte, il fallait vaincre le signe indien. Tu joues contre dans le super classico des Amériques, mais ça reste une équipe qui est très faible. Il faut regarder l'Argentine en face. L'Argentine est très 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 faible. Tout simplement.
Les gars, il nous reste trois grosses minutes. Je voudrais vous poser trois petites colles. Parce que j'ai reçu un bouquin super qui s'appelle Do You Speak Football. C'est le glossaire complet des expressions de foot à travers le monde. Alors, nous, on a nos expressions françaises. Le corner à la rémoise, les expressions qu'on a, le contrôle en porte-manteau, le machin, le truc. Sauf que tous les autres pays, ils en ont d'autres. Allez. Et il y en a des très très drôles.
Vas-y.
Alors, on y va. Ah, attention, on va démarrer. Bah, tiens, puisqu'on est en Amérique du Sud, est-ce que vous savez, en Argentine, ce qu'est une bicicleta? Allez-y, tentez votre chance. Hein.
J'essaie de ne pas dire une... C'est pas un tac par derrière, les deux pieds décollés?
Eh ben non.
Une roulette?
Eh ben non. Et bicicleta, en Argentine, c'est un passement de jambes.
Ah,
donc, c'est pas la bicyclette comme en France. Okay. Est-ce que vous savez qui sont en Argentine les botineras? Alors, si vous êtes bon en latin. Les botineras.
C'est les cireurs de chaussures.
Ça a un rapport avec les pompes.
Les intendants.
Non, c'est des gens qui sont autour des joueurs, quoi.
L'entourage.
C'est
on appelle l'entourage. Bah, les prostituées.
Non. les femmes de joueurs. En fait, d'accord. C'est les WAGs. C'est les WAGs sud-américaines.
Je lis Olé tous les jours. À chaque fois, je vois qu'ils écrivent WAGs, hein, botineras.
Les botineras, je dis que ça existe. Voilà. Donc, pourquoi? Ça vient du mot bottine. Donc, ça veut dire les bottes. Ouais, ça veut dire les bottes à haut talon. C'est les chaussures, les belles chaussures que portent les femmes de joueurs.
Il faut être bon en latin pour voir que botineras, bottes.
Tiens, est-ce qu'en Argentine, vous savez ce que c'est qu'un goal des vestuarios? Le goal de vestiaire. Le but de vestiaire. Le but de vestiaire, tu dis ça quand tu marques dès les premières secondes du match. Ah ça, c'est un but de vestiaire. On dit en... C'est-à-dire que les mecs, dans le vestiaire, ils étaient déjà dans le match, en fait.
Ok, qui est valable à la mi-temps aussi.
Et alors, il y a mieux, il y a le goal olympico. Plus compliqué à trouver. C'est un but qui se marque très rarement sur une action vraiment particulière.
De la partie de terrain?
Ouais, sur un coup de pied arrêté.
Un coup de pied arrêté?
Ouais.
De ta partie de terrain?
Le goal olympico, c'est un corner direct. Et en fait, pourquoi? Parce que, aux Jeux Olympiques, l'Uruguay, qui a gagné les Jeux Olympiques deux fois, dans les années, au tout début des Jeux Olympiques, là, ils étaient toujours concurrents de l'Argentine. Et il y a un match Argentine-Uruguay, à l'époque c'était la grosse rivalité.
Ouais, bah oui.
Et là, l'Argentine, dans ce match des Jeux Olympiques, a marqué un corner direct. Et du coup, dans le paradigme argentin, c'est resté. On dit pas un corner direct en Argentine, on dit un goal olympico.
Putain, Jonathan.
Botineras, goal olympico. Je lis Olé tous les jours, j'ai jamais lu ça. Les botineras, c'est des WAGs. Les botineras, c'est des WAGs.
C'est Ola que tu lis, c'est pas Olé.
Prochain coup, je vous sortirai les expressions en Islande, en Hongrie, au Portugal. J'en ai mille, là. Le bouquin, il est top. Et puis, je voulais conclure avec un petit message. On reçoit beaucoup de lettres d'auditeurs. Je lis pas toujours, mais des fois, je devrais le faire plus souvent. Donc, je vais le faire plus souvent. Là, j'ai reçu un mail de Nicolas, qui nous a écrit. Nicolas qui dit moi je voulais vous écrire parce que ça fait depuis que j'ai 12 ans que je vous écoute. J'ai dû écouter 95% des afters. Je me rappelle de Momo Boissy au téléphone. Je me rappelle de Karine Galli qui lisait les tweets, même qu'à l'époque on la connaissait pas, on croyait qu'à cause de sa voix grave elle s'appelait Karim. Je me rappelle de Thierry Croc qui explique pour la 24e 837e fois ce que sont que les Oriundi. Rappelez-vous, c'est vrai qu'il disait tout le temps lui. Et voilà, il dit merci Nicolas, nous dit merci d'élever le niveau des émissions de foot, vous êtes le dernier rempart contre la platitude, dit Nicolas. Et puis il nous fait une suggestion, il dit votre slogan, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, est erroné. La réalité serait plutôt l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot ne pense pas encore.
Pas faux. Bravo.
Voilà ce que dit Nicolas. Je sais pas si vous voulez qu'on adopte ce...
Bah oui, vas-y. Vas-y, très bien.
Très bien, bah, à partir de demain, on l'adopte.
Sommes des visionnaires.
Allez. Demain, l'after sera là, à partir de 21h. Demain, 3h d'after, messieurs, dames, avec en plus donc la CAN au milieu, le Mercato et tout le reste de l'actu foot du jour. Demain soir, tiens, on aura un invité très intéressant à 23h. Un bouquin passionnant sur l'origine des mouvements supporters. Vous allez voir que dans les années 20, dans les années 30, en France, avant-guerre, il y avait déjà des ultras. Ah, ils ne s'appelaient pas ultras, mais il y avait déjà des mouvements comme ça qui allaient contre les clubs, revendicatifs.
Bah, tiens, on pourra parler de l'Égypte. Bah, alors, du coup, demain.
Passionnant.
Le FC Barcelone est un précurseur dans.
Par exemple. Exactement. Ce sera demain soir dans l'after. Merci les gars. Bonne nuit à tous. À demain.
Merci.
RMC. L'Afterfoot.
This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.